cyber que vous voyez en haut, et qui avait inventé une sorte d'espace, évidemment dominé par son homme de Bessines, là, qui fait fontaine, mais une sorte de lieu totalement à la fois artificiel et naturel, où vous pouviez vous faire vos jus de fruits, où il y avait une ambiance d'exploitation agricole américaine, voyez, une espèce d'idée de ce qu'il appelle les POF, hein, les POF, les prototypes d'objets en fonctionnement. Hein, donc des sculptures que vous pouvez faire bouger. Je vais laisser tomber, ça me fait mal au cœur, mais Piotr Kowalski, simplement peut-être cette chose, vous verrez des projets qu'il n'a pas pu réaliser, mais des projets qui étaient assez étonnants. Par exemple, quand même, je reviens peut-être là-dessus, l'idée, c'est de vous voyez, il avait barré la sculpture telle qu'elle était autrefois, un monument sur un socle, et il avait inventé un processus d'intervention dans la nature, par exemple avec des systèmes de flotteurs qui pouvait créer une île, voyez, ça s'appelle Pixel Island, prototype absolument extraordinaire. Et si vous faites descendre avec un système de programmation d'ordinateur, c'est possible de le faire, si vous faites descendre certains flotteurs, vous pouvez obtenir des images qui sont vues d'avion, comme ceci. Si vous êtes déjà monté à la tour de la Défense. Vous voyez où il a fait l'escalier au degré, la vague à la Défense. Il faut y aller à la Défense, c'est sinistre, mais il y avait quelques œuvres d'art et à un moment donné, il y avait eu un espoir, mais toutes les galeries ont fermé et maintenant, bon, il y a que du business. Donc mais les artistes, à un moment donné, avaient été très présents et ils avaient fait des choses. Il y a un Serra, par exemple, hein, qui sert plutôt de pissotière aujourd'hui, mais bon, il y avait des œuvres. Bon, alors si vous montez sur la tour qui est juste, eh bien, ça s'appelle la place Blaise Pascal. Pourquoi ? Parce que si vous êtes au sol, vous voyez pas Blaise Pascal, mais si vous montez, vous verrez qu'il a composé comme un puzzle l'image de Blaise Pascal telle qu'elle est sur les billets de banque, telle qu'elle était au temps où on avait encore le franc. Ma bonne dame, hein, regardez, par exemple, ici, il avait fait ce projet pour la Pixel Mountain, et vous pouviez obtenir par un système comme ça, alors là, c'était transformer la montagne comme s'il s'agissait d'un système de pixels. On peut le faire au Japon, par exemple, parce qu'ils ont une technique de l'eau. Et donc, vous pouvez, en faisant un programme avec les bassins qui se vident, vous pouvez obtenir comme ça un visage, hein, qui aurait été la plus belle déclaration d'amour. Vous faites apparaître le visage de votre belle ou de votre beau, soyons pas sexistes, dans la montagne, hein, simplement par un système de bassins et de programmation. Bon, allez voir cette exposition. En tout cas, tenez-vous au courant de Piotr Kowalski, parce que c'est un artiste assez majeur dont je trouve qu'on n'a pas assez pris la mesure quand il était vivant. Et je termine par ma passion récente pour les robots. Il y a dans l'exposition à la Maison Rouge actuellement une œuvre de Dame June Pike, qui est très célèbre en bas. Enfin, il en a fait plusieurs versions, mais qui est le Bouddha TV. Hein, le Bouddha est regardé, il regarde la télévision et en même temps, une caméra enregistre l'image du Bouddha, la retransmet sur la télévision et il a l'impression qu'il se regarde, qu'il est en introspection. Et en même temps, vous voyez vos jambes, parce que le cadrage vous introduit dans la sculpture. Et, bon, peu importe, Nam June Paik, je n'ai pas le temps de développer, a ouvert une voie extraordinaire dès les années 60 en articulant la question de l'objet humanoïde. Vous voyez que la télévision, alors celle qui est exposée, elle n'est pas bien. Parce que, généralement, Nam June Paik, bon, il a dû faire ça comme ça, mais il choisissait toujours des télévisions qui correspondaient à son Bouddha, c'est-à-dire qui étaient arrondies, vous voyez, comme une sculpture objet, vous voyez. Il y a des familles de... Et récemment, Les Japonais, toujours, notamment le professeur Ishiguro, ont créé des robots. Il paraît que ce soir, il y a une émission qu'on rate, hein, j'espère que vous l'avez enregistrée, sur les robots. Ah, j'aurais bien aimé la voir. Manque de peau, je m'étais engagé, et il a fallu que j'aille à Lyon, mais sinon j'aurais bien regardé la télé que je n'ai pas, c'est ça le problème. Mais on peut la regarder sur ordinateur. Alors donc Ishiguro, vous voyez, a créé et continue de créer, d'abord créé une speakerine, puis bon, cette speakerine, elle n'était pas toujours disponible, donc il a préféré travailler sur son propre corps, parce qu'il l'avait toujours à disposition, et il a créé des objets étonnants qui lui ressemblent et qui peuvent parler. Donc ça pose toute la question, et à mon avis, ça nous replonge dans la question: qu'est-ce que c'est que le mimétisme? Qu'est-ce que c'est qu'une sculpture anthropomorphe? Lorsque Giacometti, que j'ai bien travaillé, hein, puisque j'ai fait ma thèse, lorsque Giacometti explique qu'est-ce que c'est que de rendre la présence vivante, ce qui l'intéressait, qu'est-ce que c'est que la présence vivante, et on voit qu'aujourd'hui les roboticiens se posent exactement les mêmes questions, pour des choses très simples, pour ça, à cause de ça. Parce que le professeur Maury a fait un article absolument fondamental où il a défini la notion d'uncanny valley, que vous voyez ici. Et qu'on voit qu'il y a toute l'histoire de la robotique humanoïde et toute la question de l'aide à la personne. Ils se sont aperçus que, en fait, on tolère un robot soit quand il ne nous ressemble pas beaucoup, à gauche, vous voyez. Alors ça, vous voyez, c'est industrial robot, human likeness. Donc là, c'est relativement. On ne l'aime pas, mais on le supporte. Hein. Et plus on s'approche de l'expression humaine, bien sûr, plus on est désireux qu'il nous ressemble, en effet. Mais à ce moment-là, moins on tolère le petit écart qui fait qu'à un moment donné, quand vous allez lui serrer la main, eh bien, sa main est glacée. Ou alors, donc, il ne va pas répondre tout de suite, ou il va, etc. Donc, tous les éléments, plus un robot ressemble à un être humain, ou plus une œuvre d'art ressemble à de l'être humain, ce que vous voyez ici, et plus on en attend. Et le moindre écart nous plonge dans ce qu'il appelle the uncanny valley, c'est-à-dire la vallée de l'étrange, qu'il a vraiment, et qui est celle qui nourrit d'ailleurs toute la filmographie fantastique, les cadavres, les zombies. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois vivant et mort. Et ça, c'est ce que les gens ne supportent pas. Et si vous relisez, si vous regardez iRobot, tous les films sur la robotique, The Bicentennial Man, par exemple, vous voyez qu'à chaque fois, la question est qu'est-ce qui nous ressemble, avec qui nous voulons partager la vie? Et les roboticiens travaillent là-dessus. Mais les roboticiens ont besoin des sculpteurs. Et ils ont besoin peut-être des historiens de l'art. Et j'ai en train de travailler avec pas avec Giacometti, toujours avec Giacometti, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais surtout avec avec ce sculpteur qui s'appelle Svaniken, donc vous entendrez peut-être un peu parler, qui est un sculpteur d'Amsterdam. Et qui utilise à la fois des éléments de taxidermie, donc des têtes d'animaux et des robots, et qui créent une bande son qui leur permet évidemment de s'exprimer, et de façon assez fascinante d'ailleurs, combinant les deux. Alors là, il n'a pas choisi le côté anthropomorphe, les animaux, mais en revanche, la bande son est incroyable et les mouvements sont corrélés très très précisément à la bande son, ce qui crée une impression justement de familiarité. Et le musée du Quai Branly est en train de développer un robot dont j'avais parlé un petit peu la dernière fois, mais je vois que j'aurai pas le temps d'en parler non plus. Mais je crois qu'on va s'acheminer. Je pense qu'on va la faire, cette expo. C'est presque signé quand même. Bon, on espère. Mais où il y aura ces histoires de robots. Et donc, voyez, ils ont développé l'université de Cergy, un robot qui s'appelle Berenson, en référence à cet honorable historien de l'art que nous admirons tous, mort en 57, et qui était un des grands connaisseurs. Et donc, vous voyez, Berenson est monté sur roue, il se balade au sein du musée, regarde ce que les gens regardent, il apprécie ce que les gens apprécient, j'aime pas, il enregistre tout ça, et surtout, nous avons des images de la manière dont les gens se situent par rapport au robot. Voilà, merci de votre attention et désolé d'avoir été encore une fois un petit peu long.